France Inter.
L'invité au carré. Aujourd'hui,
Alessandro Pignocchi, auteur de bande dessinée et ancien chercheur.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Extinction de masse, dégradation des milieux de vie, pollution généralisée, catastrophes en cours et à venir, printemps silencieux, déplacement forcé, que la crise écologique vienne grossir le flot de tristesse et d'angoisse qui irrigue les subjectivités collectives n'est pas à démontrer. Les mouvements politiques qui cherchent à s'en saisir jouent souvent sur cette corde-là, en appelant à la mobilisation pour s'attaquer aux causes de la catastrophe et en atténuer les effets. Si ces motivations sont essentielles et légitimes, elles ne suffisent pas à nourrir un mouvement politique puissant. L'éco-anxiété et les autres affects tristes qui gravitent autour de la question écologique peuvent certainement alimenter des actions ponctuelles et explosives, plus difficilement fédérer dans la durée et dessiner un horizon commun. Sans remettre en cause le régime de désir façonné par deux siècles de mise en économie du monde et sans toucher aux grandes institutions qui l'entretiennent et l'alimentent, les propositions écologiques ne peuvent parler que de privation, d'efforts, de contraintes et de frustration. Déplacer la focale sur nos relations aux vivants non humains inscrit la lutte écologiste dans une perspective autrement enthousiasmante, en proposant non pas d'utiliser mieux plus raisonnablement les vivants non humains, mais de dépasser la relation d'utilisation elle-même pour aller vers l'institution de relations subjectivantes interespèces, on ébauche la perspective d'un autre monde. Un monde plus riche et intense à habiter, plus divers et porteur de plus de joie que celui dominé par la relationnalité objectifiante. On active d'une façon particulière notre aptitude à attribuer une intériorité à autrui, à deviner ses croyances et ses désirs, on les noue à nos propres existences passées, on engage des formes de résonance empathique, épaissie et colorée de toute une palette d'affects absents de la relation instrumentale, qu'elle soit exploitation, protection ou même contemplation esthétique. Bonjour Alessandro Pignocchi.
Bonjour.
Ces lignes sont extraites de votre ouvrage « Perspective terrestre, scénario pour une émancipation écologiste ».
J'ai mis un moment à reconnaître que c'était moi, je me suis dit « Oula, c'est un peu obscur ce que
vous dites. » Oui, mais ça ressemble à votre plume quand même. C'est aux éditions du Seuil. Dans ce livre, qui est à la fois un essai et une bande dessinée, vous proposez donc un scénario optimiste pour les décennies à venir, ce qui n'est pas de refus à l'heure où l'écologie fait l'objet d'un grand retour en arrière sur des textes de loi et le droit de l'environnement. C'est l'occasion avec vous de découvrir votre parcours, Alessandro Pignocchi, depuis votre passion pour les oiseaux à votre rencontre déterminante avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et votre histoire, elle commence le 25 février 1980. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là avec les archives retrouvées par Valérie Ayestaraï.
Messieurs, bonsoir. Le Sénat a rouvert ses portes aujourd'hui pour débattre d'un gros dossier, la loi d'orientation agricole. Un texte de longue haleine, puisqu'il engage la France pour 20 ans, c'est-à-dire jusque l'an 2000. D'autres joutes parlementaires à l'Assemblée cette fois, puisqu'à l'ouverture de la session extraordinaire, deux motions de censure sont d'ores et déjà déposées, d'abord par les socialistes pour condamner, je cite, le bilan des 6 premières années du septennat de M. Giscard d'Estaing, et l'autre par les communistes qui dénoncent à la fois la dégradation du niveau de vie des Français et l'affaiblissement de la position française dans le monde. Après le naufrage du pétrolier grec Irene Serenatas, dimanche, à proximité de la petite île de Sphektaris, c'est-à-dire en Grèce, la menace de marée noire semble écartée. 5 bateaux aménagés spécialement pour la lutte anti-pollution participent aux opérations et un autre pétrolier va tenter de pomper directement le pétrole qui reste dans les pas. C'est pour nous l'occasion de faire le point sur les vacances d'hiver, des vacances qui se développent à un rythme bien plus élevé que les vacances d'été puisque les départs ont augmenté de 25% en 4 ans.
Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver les grands espaces blancs. 1 250 000 il y a 10 ans, plus de 4 millions aujourd'hui. Un engouement que rien n'arrête, même pas les difficultés économiques. Une fuite en avant où il semble bien qu'on soit prêt à tous les sacrifices pour se retrouver les deux pieds dans la neige et la tête hors de la ville.
Bonsoir à tous et à demain.
Voilà. Voilà, Alessandro Pignocchi, le journal de votre naissance, donc 25 février 1980 sur Antenne 2. Commentaire sur cette actualité, qu'est-ce qui ressort pour vous là, dans ce que vous entendez ?
En tout cas, je sais, ça me perturbait pas à l'époque.
Ouais.
On sent effectivement un autre temps malgré tout, quoi, des préoccupations qui n'étaient pas encore là sans doute. Pas de la même façon.
Cette marée noire en Grèce, c'est le pays de votre naissance, c'est ça ? C'est là que vous naissez, justement. Hein.
Mais j'y ai pas vécu, je ne l'ai fait qu'y naître. Et je n'étais pas au courant de la marée noire le jour de ma naissance.
Et évidemment, vous naissez où, à Athènes, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais. Votre famille est grecque ou pas ?
Pas du tout, c'est une sorte de hasard, je crois.
Et vous êtes parti donc à quel âge, hein, de la Grèce ?
Quelques mois plus tard, pour l'Italie, pour Rome.
Et donc c'est là que vous avez passé votre prime jeunesse ?
Tout à fait. Ouais. L'enfance jusqu'à 6 ans, en gros, avant de rentrer en France.
À quoi ça ressemblait l'enfance romaine d'Alessandro Pignocchi ?
En tout cas, j'étais dans une maternelle qui devait être, alors je sais pas ce que c'était, j'ai pas fait de recherche, mais qui devait être d'un style assez alternatif, vu qu'on était livré à nous-mêmes dans une colline boisée. J'ai des souvenirs de champs de graminées, de coquelicots et de vergers en fleurs sur une colline de Rome. J'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup d'instituteurs ni de
professeurs.
Il devait y en avoir, mais je m'en souviens pas.
Ouais.
Et en tout cas, quand je suis rentré en France et que j'ai été transféré pour le coup dans une salle de classe tout à fait ordinaire, ça a été un petit choc, un petit traumatisme. Ouais.
Quel était votre environnement familial, alors, si on peut avoir un petit peu un cadre social de la famille Pignocchi ?
Elle est de taille très modeste, la famille Pignocchi. J'ai perdu mon père peu de temps après ma naissance, donc j'ai grandi en Italie avec ma mère et ma tante, donc petite classe moyenne, et par contre, fils unique, élevé en Italie en plus, par deux femmes. J'ai pas reçu, jeune en tout cas, les outils qui m'auraient permis d'avoir des facilités pour la vie en collectif et la vie en communauté plus tard. Je suis pas un enfant de longue maille.
Pourquoi ? Parce que très couvé aussi ? Très solitaire ou...
Sans doute. J'avais une passion précoce pour l'ornithologie, qui était un monde plutôt d'adultes. J'avais sans doute, pour tout un tas de raisons, un besoin un peu plus vif que les autres enfants d'attirer l'attention et de susciter l'admiration des adultes. Ouais. Donc voilà, j'observais les oiseaux, je les dessinais et je fréquentais, en tout cas très jeune, assez peu mes pairs. Et du coup, oui, plutôt entouré d'adultes. Et même si j'avais ma grand-mère française, pour le coup, était communiste, résistante, mais donc ça m'a sans doute marqué, ces récits, même si à l'époque, je m'en désintéressais complètement. Et malheureusement, elle est morte avant que je puisse lui poser de questions plus précises, maintenant que ça m'intéresse un peu plus.
Ouais.
Mais en tout cas, malgré cet environnement et ces idées, ma tante italienne, je viens de m'en souvenir, elle a travaillé au Club de Rome, si on veut faire des... C'est-à-dire, elle était travaillée avec Aurelio Peccei, un de ses fondateurs. Donc, c'est l'organisation qui a publié les premiers rapports sur les effets du changement climatique dans les années 70.
Ouais.
Mais pareil, elle m'en parlait pas tellement. Et je pense que voilà, malgré les idées communistes qui baignaient malgré tout dans la famille, j'ai plutôt été élevé comme un pur produit de l'époque, un petit enfant individualiste qui intégrait tout à fait les valeurs de la modernité occidentale. Ouais. Quoi.
Il y avait un engagement politique du côté de votre mère ou pas du tout ? C'était vraiment les grands-parents ?
Oui, c'était plutôt les grands-parents, donc ma grand-mère résistante et mon grand-père aussi qui était dans les francs-tireurs parisiens et qui a été abattu par la police française pendant l'occupation.
Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'ailleurs, le terme de franc-tireur, qu'est-ce que c'est exactement un franc-tireur à l'époque ? C'est ceux qui sont du côté de l'armée.
C'est un des groupes de résistants parisiens. Quoi.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, Alessandro Pignocchi, alors, parce que vous avez un parcours intéressant qui part d'ailleurs presque des oiseaux aussi. Hein. Ça a été votre passion absolue et une passion qui vous a fait partir très jeune quand même.
C'est ça. Ça, pour le coup, je ne sais pas trop d'où elle vient, cette passion, si ce n'est encore une fois le besoin d'attirer l'admiration des adultes. Et pour le coup, de dessiner des jolis oiseaux à l'aquarelle était un outil assez efficace pour atteindre ce but.
Donc ça passe par le dessin, c'est-à-dire que c'est...
Les deux, non, peut-être d'abord les oiseaux et ensuite les enfants dessinent ce qu'ils aiment. Donc moi, en l'occurrence, je dessinais des oiseaux. Mais oui, ensuite, c'est une passion qui s'auto-alimente, surtout quand on la développe aussi jeune. On sait que... On développe une sorte de familiarité cognitive, que la reconnaissance tant de visuelle des oiseaux que de leur chant va se mêler aux airs de la reconnaissance des visages humains et de la voix humaine quand on s'y intéresse à cet âge-là. Donc on développe une familiarité pour eux, donc c'est une passion qui s'auto-entretient. Et oui, en effet, c'était une passion vraiment dévorante. Et j'imposais à ma mère, alors elle était consentante a priori, mais en tout cas je lui imposais tout mon temps libre, toutes les vacances étaient consacrées à la recherche d'oiseaux. On a notamment, quand j'étais très jeune, passé des vacances de Noël dans le nord du Maroc pour aller chercher le dernier courlis à bec grêle. qu'on a vu. Et d'ailleurs, ça me, pour anticiper un peu sur la suite, cette anecdote-là, quand j'y repensais, illustre bien le rapport très occidental et finalement très tordu que j'avais aux oiseaux à l'époque, parce que je me rappelle pas d'avoir été triste, d'avoir eu de l'empathie pour cet individu qui était le dernier de son espèce. J'étais juste très heureux de trouver un objet rare, quoi, dans une perspective de collectionneur, et pas du tout dans une perspective de lien subjectivant au non-humain.
Et alors, c'était un travail d'ornithologue amateur, quoi, quasiment, cette passion, ou pas? Vous aviez envie de devenir plus tard vraiment un professionnel de la chose?
Sans doute, mais comme c'était un rapport à l'ornithologie très occidental, parce que je m'adaptais au monde dans lequel j'étais rentré, c'est-à-dire que c'est très dominé quand même par l'affect du collectionneur, relativement déconnecté tant de la recherche scientifique que de la volonté de tisser des liens empathiques, subjectivants. Donc, mais oui, en tout cas, ça a sans doute déterminé quand, plus tard, j'ai commencé des études de biologie après le bac.
Ça vous a fait voyager aussi, ces oiseaux? Parce qu'il y a eu quand même très jeune, quand on voit votre parcours, c'est assez étonnant. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est
un voyage au long cours, à quoi, 15 ans, c'est ça?
À 15 ans, j'ai fait mon premier voyage en Équateur, parce que motivé par ça, parce que c'est un des pays avec la Colombie où il y a le plus d'oiseaux. Et c'est aussi les oiseaux qui m'ont mené dans mes pour la première fois dans des communautés autochtones en Amazonie. Mais à l'époque, c'était sans aucune curiosité anthropologique. Je considérais les autochtones quasiment comme un mal nécessaire pour pouvoir séjourner en Amazonie et observer les oiseaux.
Ah ouais. Et il y avait un intérêt partagé ou pas pour les oiseaux avec ces populations?
Quand même, ça les amusait certainement qu'un jeune adolescent soit aussi enthousiaste. Et puis c'était valorisant pour eux, parce que de fait, ils avaient évidemment des capacités de reconnaissance et d'identification et de détection des oiseaux qui me fascinaient. Donc,
mais c'est un voyage qui a duré combien de temps?
Les premiers, c'était des voyages relativement courts, mais j'ai pris une année sabbatique après le bac en Équateur encore pour illustrer un guide d'ornithologie.
Ah oui, donc toujours pour les oiseaux. Ouais.
Toujours pour les oiseaux, sachant que à l'adolescence tardive, sans doute motivé par le fait d'essayer de construire aussi quelques interactions avec des membres de mon espèce, j'ai l'intérêt pour les oiseaux, c'est petit à petit transformé en une passion presque aussi dévorante pour les psychotropes qu'on trouve en Équateur de façon presque aussi abondante que les oiseaux.
Ouais.
Et donc ça aussi mené dans des communautés indigènes, des chouars notamment, qui appartiennent aussi au groupe linguistique Jivaro, où je me rendrai plus tard. Mais là encore, j'avais pas de curiosité pour les humains. Je glanais quelques anecdotes exotiques à raconter en rentrant, mais j'avais pas du tout les outils d'analyse qui me permettaient de comprendre.
Mais avec tous les humains, ou les humains du terrain en particulier, parce que vous êtes pas parti tout seul, vous étiez dans un groupe d'adolescents?
Non, à mon année sabbatique, j'étais tout seul avec en Équateur. Après, j'ai rencontré des gens sur place, évidemment, mais pour le coup, le guide, c'était juste avec un autre ornithologue local.
Et alors, quand vous rentrez en France, après ces donc deux années sabbatiques...
Une année. J'en ai pris une autre en Bolivie plus tard.
Ah oui, c'est ça, donc il y a eu deux épisodes. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous parlez de biologie?
Je démarre des études, ouais, un peu faute de mieux, des études de biologie à Jussieu, ouais.
Et dans ce parcours de jeune étudiant, il y a une figure intellectuelle qui va jouer un rôle majeur, c'est celle de Philippe Descola. Pourquoi vous avez été traversé par son œuvre? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand vous découvrez les écrits
Descola? C'est effectivement un choc. Alors, déjà, Descola, ça a été un choc pour beaucoup de gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui, quand on leur a mis Part de la nature et culture entre les mains, ont été assez bouleversés. Après, ce choc aurait pu advenir avec d'autres auteurs, de tous ceux qui parlent de la relativité du concept de nature et de la distinction entre nature et culture. On y reviendra. Mais moi, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est ces séjours précoces dans des communautés
que vous aviez
autochtones en Amazonie. Et où j'avais malgré tout, même si j'avais aucune curiosité, aucun outil, j'avais mémorisé sans trop y prêter attention un certain nombre de détails du quotidien, sans du tout me douter du monde animiste en l'occurrence qu'il recelait. Et c'est donc bien plus tard, en lisant Les Lances du Crépuscule, donc c'est le premier livre de Descola que j'ai lu, le récit de son terrain à la fin des années 70 avec sa compagne Anne-Christine Taylor, et là d'un coup je retrouvais sous sa plume un certain nombre de petits détails qui m'avaient semblé tout à fait insignifiants mais que j'avais mémorisé néanmoins, et là je découvrais le monde, la cosmologie extrêmement riche qui se dissimulait derrière. Je me suis senti un peu minable.
Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous étiez passé finalement
complètement à côté
de quelque chose d'important.
Quelque chose d'absolument fascinant, fondamental. Et que ça m'a...
Et qui était quoi alors en l'occurrence?
En l'occurrence, c'est le fait que j'avais projeté très banalement sur les... chouards que j'avais fréquentés, par exemple, le fait, cette proximité avec la nature, tous les clichés qui traversent les subjectivités collectives de l'occidental moyen. Et je découvrais ce que raconte Descola, qu'il n'utilise pas le concept de nature, qu'en Amazonie, dans l'Amazonie animiste, la distinction entre nature et culture n'a pas lieu, que la protection de la nature, ça se joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que le deuxième choc, disons, à part la découverte de ce que c'était que l'animiste, qui est fascinant en soi, est particulièrement impactante quand, comme moi, on était passionné d'ornithologie, qu'on s'était toujours dit passionné de nature, qu'on n'avait jamais évidemment remis en question l'idée de nature, et ni la perspective de protection. C'est-à-dire que quand on est pris dans la façon de penser dominante de l'Occident moderne, la perspective écologique ultime, ça semble être la protection, quoi, sous forme de parcs, naturels, de parcs nationaux.
Donc toujours la séparation, finalement.
La séparation disons, protection qui implique la dévastation ailleurs. Et en tout cas, je pense, enfin, c'est peut-être une relecture un peu prétentieuse a posteriori, mais je me dis que déjà à l'époque, j'avais une petite insatisfaction, quoi, qui était non analysée. J'en avais pas vraiment conscience, mais ça me semblait étrange que la perspective politique la plus audacieuse sur laquelle on puisse rêver, ça soit la multiplication des parcs nationaux. Il y avait quelque chose d'insatisfaisant là-dedans. Et donc là, quand on comprend que la protection en Occident est l'autre versant de l'exploitation, que les deux vont ensemble, qui sont tous les deux, que l'une comme l'autre sont les rejetons d'un rapport extrêmement d'une façon d'organiser le monde extrêmement particulière, où l'ensemble de la subjectivité, de la gentilité du côté des humains et les non-humains sont les plantes, les animaux, les milieux de vie sont des objets qu'on exploite la plupart du temps, qu'on protège parfois et éventuellement qu'on contemple esthétiquement, mais en tout cas qui n'appartiennent pas au registre du social. Et on découvre que la plupart des autres peuples du monde intègrent d'une façon ou d'une autre les non-humains à la vie sociale, qu'ils nouent avec eux des rapports subjectivants, c'est-à-dire qu'ils tiennent spontanément compte de leurs intérêts et qu'on essaye de nouer avec eux des relations de bonnes ententes diplomatiques pour partager un monde commun. Là, d'un coup, l'horizon s'éclaire, ça a fait éclater l'horizon de la protection. On comprend que le concept de protection de la nature pour un chouard ou un natchouard n'aurait absolument aucun sens, que même si on s'ingéniait à lui expliquer, ça aurait probablement... Il aurait beaucoup de difficultés à comprendre.
Hein. Ouais.
Tout à fait. Et du coup, ça ouvre la perspective qu'on pourrait appeler du vivre avec. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de protéger quelques petits fragments de nature, mais de repenser l'intégralité des activités humaines, en particulier les activités productives, non plus en les voyant surdéterminés par les impératifs économiques, les impératifs de rentabilité, mais en bonne entente avec les non-humains, penser collectivement, avec un collectivement qui d'un coup inclut plantes, animaux et milieux de vie.
On va en reparler. Par-delà de nature et culture de Descola, ça en 2005, vous avez 25 ans à ce moment-là, et plus récemment, c'était dans La Terre au Carré, Philippe Descola, venez nous en parler.
Cette extériorité de la nature n'existe pas chez les Atchouars, puisque, encore une fois, les plantes, les animaux, les esprits font partie des interlocuteurs de l'existence quotidienne. Les humains sont embarqués dans un réseau d'interactions entre les humains et tous les autres êtres qui les environnent. Ça ne veut pas dire que les plantes ou les animaux sont sacralisés, puisqu'on mange aussi bien les plantes que les animaux que l'on chasse, mais on ne les traite pas comme des objets inanimés.
En octobre 2024, à cet endroit, donc, la voix de Philippe Descola. Le problème avec les écrits de Philippe Descola, ou quand on le reçoit en entretien, c'est qu'après, on n'ose plus employer le mot « nature ». Est-ce que ça a été votre cas, Alessandro Pignocchi ?
Un peu, mais c'est pas le...
Est-ce que c'est un mot qui devient quasiment interdit ou pas ?
Non, bah, il est commode, mais...
On tourne autour, en tout cas, non ?
Il est commode, mais encore une fois, la lutte se passe pas ni dans le domaine des idées, ni dans celui de la terminologie. À la limite, peu importe qu'on emploie ou non le concept de nature. Le problème, c'est l'ensemble des grandes institutions de l'Occident moderne qui reposent sur, non pas ce concept, mais ce qu'il implique matériellement, c'est-à-dire une possibilité d'exploitation infinie et sans aucun devoir de réciprocité.
Donc vous l'employez quand même, ce mot de nature ?
Je sais pas. Oui, bah, c'est sûr que j'ai une petite gêne à chaque fois que j'utilise. Oui, c'est ça.
Quand même.
Il y a beaucoup de gens qui en veulent à Philippe, surtout leur nature, pas tant, mais le terme naturaliste à qui il a donné une définition très particulière. Sauf que dans notre monde, les naturalistes, c'est les passionnés de plantes, d'oiseaux, donc ils sont très embêtés que maintenant le terme soit devenu péjoratif.
Ouais. Vous avez un autre mot ou pas ? C'est la question que je pose à tout le monde à chaque
fois.
Vraiment.
On suremploie le concept de vivant non humain ou d'autres humains, plantes, animaux. Bah, c'est bien, ça oblige à les nommer un peu plus précisément. En tout cas, ne plus utiliser ce sac fourre-tout dans lequel on range aussi bien des territoires, des êtres, des phénomènes, et qui n'est plus politiquement fonctionnel aujourd'hui, quoi.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Lancée il y a 2 ans, l'opération César a détruit une trentaine de lieux de vie. Ici, une 60aine de lieux de vie, comme ce hameau de caravane, abrite quelques 200 personnes.
C'est jamais un choix évident, sinon ça se saurait, il y aurait beaucoup plus de gens qui vivraient comme nous. En dehors de ça, c'est un choix de vie qui est très riche, qui apporte beaucoup, qui n'est pas facile non plus dans le fait que c'est finalement, enfin quand on voit ce qu'a été l'opération César, où il y a quand même eu un tas de blessés, la résistance n'a pas été facile, on s'est retrouvé pendant des mois à vivre dans la boue, à avoir nos maisons détruites, à subir un harcèlement policier qui a duré assez longtemps. Et en même temps, il y a une telle richesse dans les liens qui se créent, dans la solidarité, dans la chaleur humaine, dans l'intensité qu'on trouve dans ces formes de vie-là, que c'est un choix qui apporte beaucoup dans la manière dont ça nous construit individuellement et collectivement.
Il s'appelle Camille, il habite la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alessandro Pignocchi, vous qui êtes dessinateur et qui publiait la recomposition des mondes en 2019 aux éditions du Seuil. Une bande dessinée justement inspirée par votre expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Dans quel contexte est-ce que vous êtes arrivé là-bas ?
J'y suis allé un peu avec les mêmes motivations que mes voyages plus tardifs chez les Achuar en Amazonie, c'est-à-dire fasciné par les récits de Descola, l'envie de voir à quoi ça ressemble pour de vrai un monde où les non-humains ne sont pas mis à distance mais intégrés à la sociabilité du lieu. Pour le coup, de ce point de vue-là, les voyages en Amazonie ont été plutôt un fiasco, même si j'ai des très bonnes relations avec les Achuar et je continue à y aller régulièrement.
Mais à quel niveau il est le fiasco ?
Parce que l'animisme amazonien n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire que quand on ne parle pas la langue et qu'on y va simplement quelques semaines, ce rapport subjectivant au non-humain n'est pas du tout perceptible. Alors, ça a été la principale découverte, si on veut, que j'ai faite en Amazonie. C'est que la cosmologie d'un peuple n'est pas un sujet de conversation ordinaire. Contrairement à ce qui se passe dans les fictions grand public.
Donc c'est quoi ? C'est plus un sujet pour anthropologue ?
Il faut y rester, oui, c'est ça. Il faut apprendre, il faut parler la langue, il faut rentrer dans les interactions quotidiennes. Et pour le coup, autant la lecture de Descola a été un choc intellectuel, autant la rencontre avec la ZAD a été une sorte de choc de réalité. C'est-à-dire que là, pour le coup, toutes ces idées que je travaillais dans l'abstrait, dans le registre discursif, d'un coup trouver une incarnation réelle.
Et donc là, vous l'avez vécu dans votre présence et dans votre corps aussi sur place.
Hein. Exactement, sans doute parce que là, pour le coup, je parlais la langue, en tout cas dans une certaine mesure, et que c'était des humains qui me ressemblaient beaucoup plus. Là, d'un coup, ça prenait réalité. En fait, ce qui prenait réalité, ça allait bien au-delà des idées descoliennes. C'est que je découvrais toute une famille d'affects, des territoires entiers des possibilités humaines, des possibilités affectives humaines que j'avais pas eu l'occasion de vivre avant ça.
C'est ce que dit Camille d'ailleurs.
C'est ce que disait la personne qu'on vient d'entendre, tout à fait. C'est qu'en fait, il y a la dimension relationnelle de la personne humaine, par exemple, dont on fait grand cas en anthropologie, dans les institutions occidentales modernes qui, au contraire, ont une conception très particulière de l'individu, qui confond la liberté avec l'absence de lien durable, où il y a une sorte d'idéal d'autonomie émotionnelle, où on doit ne tisser avec les autres, avec ce qui nous entoure, que des liens temporaires et en général utilitaristes. Là, d'un coup, sur la ZAD, on prend conscience, mais on prend conscience pas dans le registre intellectuel, enfin aussi dans le registre intellectuel, mais surtout ce qui est important, c'est dans le registre incarné, ce que ça fait de, d'un coup, se sentir maillé dans un vaste collectif d'humains, de non-humains et d'éléments du milieu.
Concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément très bien ces concepts-là, ça veut dire quoi être tout d'un coup maillé avec le monde des non-humains qui nous entourent sur une ZAD comme celle de Notre-Dame-des-Landes ?
D'un coup, quand on se promène dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, tout ce qui nous entoure, que à cet endroit-là, il y a des brebis en train de pâturer, que cette zone de forêt soit en libre évolution, qu'à cet endroit-là, on ait creusé une mare, ça dépend en partie de nous. Ça dépend en partie de soi et d'une décision collective. Alors que le reste du temps, quand on traverse des milieux de vie, on est spectateur. À tout casser, on les contemple esthétiquement. On peut se plaindre des décisions qui sont prises, mais on ne se sent absolument pas impliqué dans la politique du lieu. Et là, tant les relations de subsistance, les relations affectives, puisque c'est un lieu qu'il s'agissait de défendre, que l'ensemble de ce qui s'y passe dépend en partie de soi. Donc d'un coup, on découvre ce que c'est que le fameux soi étendu, que l'Occident ampute, mais qu'en l'occurrence, la personne humaine déborde son enveloppe corporelle, en quelque sorte, et l'ensemble des liens qu'on peut tisser avec un milieu nourricier, des liens de subsistance, des liens politiques, ça nous compose vraiment. Et c'est une expérience extrêmement forte, parce que c'est l'hypothèse que je développe dans Perspective terrestre, on y reviendra, mais c'est a priori un élément extrêmement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, les humains ont été maillés affectivement avec des relations empathiques, subjectivantes, extrêmement riches au territoire qu'ils habitaient et à l'ensemble de ces habitants humains et non humains, ce qui enrichit aussi la relationnalité avec les humains.
Et c'est ce que nous avons largement perdu aujourd'hui.
Et ce que la modernité a largement...
Et que nous devrions précisément essayer de retrouver face à l'adversité, par exemple.
Alors, on devrait sans doute la retrouver, mais disons, l'hypothèse politique que je développe, c'est qu'il y a là, il y a dans cette affaire-là une puissance politique dormante. C'est-à-dire qu'un affect, enfin des affects, des façons de faire qui ont été aussi importantes dans l'histoire de l'humanité et qui ont été aussi parfaitement effacées par la modernité, il doit y avoir une façon de réactiver ça et d'en faire un mouvement, une puissance politique, la fameuse puissance désirante qui manque à beaucoup de mouvements politiques. Et c'est d'autant plus essentiel que les projets politiques contre lesquels on essaye de lutter, en l'occurrence le maintien du capitalisme et sa version fasciste qui est en train de se mettre en place, eux captent des affects humains de façon très efficace, très puissante, et donc on ne pourra pas les affronter efficacement simplement sur la base de leur critique rationnelle. Il faut continuer à la faire, évidemment, mais il faut aussi qu'on ait à proposer, à mettre en face d'eux, un projet politique, des projets d'institutions qui, elles aussi, parlent au désir, qui, elles aussi, proposent des formes d'intensité de vie, et à mon avis, et on est d'autres à partager cet avis, est-ce que c'est la thèse que j'essaye de développer dans Perspective terrestre, parce que c'est pas complètement évident de savoir où est-ce, quel genre d'affect, quel genre de désir on va essayer de convoquer pour rivaliser avec le désir de consommation, les bouffées narcissiques que propose le contexte compétitif du capitalisme, et alors les affects fascistes dont on reparlera peut-être, mais qui malheureusement vont vraiment piocher dans la pulsionnalité humaine de façon redoutablement, à très court terme, mais de façon redoutablement efficace. Et donc l'idée, c'est que c'est les si on s'inspire de l'anthropologie, de l'histoire, c'est là, c'est dans la relationnalité au-delà de l'humain, dans les désirs d'autonomie, dans les désirs de tisser des relations plus riches, donc subjectivantes, pas purement utilitaristes, mais des relations qui convoquent notamment l'empathie avec les milieux de vie. C'est là qu'il y a un réservoir d'affect qui peut faire mouvement.
Donc ce qui est dormant pourrait se réveiller, en tout cas.
C'est l'espoir.
Vous appelez de vos voeux. Dans ce scénario pour une émancipation écologiste, on va y revenir avec vous tout à l'heure, Alessandro Pignocchi. Juste encore un mot sur Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes arrivé à quel moment de l'histoire de la lutte ?
Le hasard, mais c'était pas, j'y suis pas allé attiré comme certains par l'adrénaline de l'émeute, mais le hasard a voulu que j'arrive en gros un mois avant la dernière procédure d'expulsion, celle qui a eu lieu en avril 2018. Et du coup, forcément, ça a contribué à l'impact. C'est sûr que quand on découvre un lieu, qu'on s'émerveille sur ce que ça nous fait d'être pris par l'endroit, en contribuant à des chantiers, à des potagers collectifs, en évidemment rencontrant tout un tas d'humains assez fascinants, que d'un coup, on sent on a la joie de ressentir des idées abstraites prendre chair pour... prendre cher à un double sens, mais là, ça fonctionne. Là, en l'occurrence, j'entendais comme incarné, mais ça fonctionne dans les deux sens. Et que, en plein émerveillement, les blindés de la gendarmerie viennent rouler sur tout ça. Évidemment, ça contribue à ce que les idées prennent particulièrement cher et à ce que, par exemple, évidemment, la notion de conflictualité politique prend une réalité tout à fait particulière.
C'est ce que disait d'ailleurs le militant tout à l'heure dans l'extrait qu'on entendait, c'est-à-dire qu'il y a eu une adversité très très forte, une répression extrêmement violente.
Par effet miroir, donne une intensité particulière aux attaches. Le fait qu'elles soient, par exemple, pendant le mois que j'ai passé sur la ZAD, j'ai contribué à la construction d'un lieu incroyable, l'Ambasada, où on était 40 toute la journée sur un chantier terre-paille avec une charpente traditionnelle, et on la bâtissait avec une espèce de passion, en se disant qu'il était malgré très probable qu'elle soit détruite à la fin du mois. Forcément, ça crée des affects particuliers, et par effet miroir, ça met en relief l'importance de tous ces attachements, de les sentir menacés comme ça, et de leur caractère vraiment fondamental, à quel point c'est vraiment un nutriment essentiel pour l'esprit humain, nutriment dont on a été très largement dépossédé, pour lequel on est globalement, dans les institutions en particulier urbaines, en état de carence chronique.
Alessandro Pignocchi, le mois de février 2018 a été important. Samedi 10 février 2018, 20 000 personnes se retrouvent à Notre-Dame-des-Landes pour fêter la victoire, et on va écouter une petite archive de cette période.
Titi est l'avenir, il est à nous, il est à qui, il est à est à nous, il est à qui, il est à nous.
La journée est importante parce que les gens sont dans une dynamique beaucoup plus positive et je pense qu'au niveau de toutes les luttes qui sont représentées aujourd'hui, ça va donner une nouvelle dynamique, de l'espoir à beaucoup. C'est important pour les militants qu'il y ait quelques victoires de temps en temps, il y en a tellement peu.
C'est un carnaval, c'est l'idée que le printemps arrive mais qu'il n'est pas encore là et qu'il y a encore des choses à arracher.
2018, février 2018. Est-ce que c'est facile d'amorcer la victoire, justement, Alessandro Pignocchi ? L'après-victoire sur une zone comme ça de lutte, est-ce que c'est un moment compliqué ?
C'est évidemment.
C'est 50 ans de lutte à Notre-Dame-des-Landes. Hein.
Ah, c'est évidemment très compliqué. Surtout. Là encore, pour des Occidentaux modernes, parce que ceux qui y vivent, même si c'est sans doute des humains, comme disait le fameux Camille dans l'archive, c'est une vie très particulière, mais néanmoins, c'est des gens qui ont grandi dans l'Occident moderne, donc n'ont pas la même facilité avec le collectif que ont des personnes qui ont grandi dans une atmosphère, dans des communautés autochtones. Par exemple, c'est très probablement que les apatistes du Chiapas au Mexique ont plus de facilité à s'organiser entre eux que nous. Donc, évidemment qu'un moment aussi intense avec une victoire et la nécessité de penser l'après-victoire, ça a été extrêmement complexe. Mais néanmoins, malgré toutes les embûches, la ZAD l'a traversée et aujourd'hui continue.
Et c'est quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, continue à construire, à bâtir dans la mesure du possible. Il y a encore 200 personnes qui y habitent à temps plein, plus de très nombreuses autres qui, comme moi, y passent régulièrement et qui contribuent de diverses façons. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'elle est absolument essentielle, parce que c'est pas qu'une victoire contre quelque chose. C'est que là, dans le paysage politique extrêmement sombre dans lequel on est, on a appris à confondre les victoires avec des défaites évitées, quoi. Mais là, non seulement il y a eu l'empêchement du projet d'aéroport, mais c'est surtout que ça a permis la solidification d'une zone, d'un territoire malgré tout étendu, d'une population humaine et non humaine, là aussi étendue, qui œuvre à solidifier une forme d'autonomie politique et matérielle. Et heureusement qu'ils sont là, c'est quand même un des exemples concret, palpable, réel, de ce que j'appelle de mes voeux dans perspective terrestre.
Est-ce que vous auriez pu y rester, y vivre comme le font 200 personnes aujourd'hui, ou vous avez fait ce choix justement d'en sortir et d'y revenir régulièrement ?
J'ai fait ce choix un peu par défaut, peut-être que si je l'avais... c'est évidemment, je me suis beaucoup posé la question. Peut-être que si je l'avais découverte plus jeune...
Pourquoi vous n'y êtes pas resté ?
Parce que c'est ce que je disais au départ. C'est que pour le coup, moi, je suis vraiment un pur produit de l'époque. Je n'ai vraiment pas de facilité avec le collectif. La vie sur la ZAD, ce n'est pas juste une vie en collectif. C'est une vie dans un collectif qui est en affrontement permanent, qui doit résister en permanence aux attaques de l'État, aux attaques administratives, militaires, mais en ce moment, surtout administratives, du conseil départemental notamment. C'est vraiment un travail à temps plein. Et... ça n'aurait pas eu vraiment de sens d'y vivre, tout en essayant de maintenir un travail d'auteur de BD qui demande un isolement, qui demande de la solitude, et solitude qui aurait été impossible à trouver en habitant sur la ZAD, ou alors d'une façon un peu absurde. Quoi.
Le terme zadiste, c'est devenu un mot repoussoir dans la bouche de certains dirigeants politiques, avec des zadistes présentés comme de dangereux hors-la-loi, avec des boules de pétanque hérissées de lames de rasoir entre les mains. À quoi correspondent ces fantasmes et ces clichés ? Qu'est-ce que ça raconte au fond ?
Ça raconte énormément de choses. C'est marrant parce que moi, cette histoire de boule de pétanque, c'était évidemment un fake complet. Genre, je fais des blagues dans ma BD, vu que c'est impossible de les souder. Quoi. mais ça avait contribué à me fasciner quand j'avais lu ça. Je me dis, ah putain, ils ont vraiment l'air tarés, je vais aller voir. Mais bon, évidemment, de ce point de vue-là, j'ai été plutôt déçu. Mais ça dit, c'est la peur qui suscite. Enfin, les attaques que subissent des groupes de population de la part des classes dirigeantes sont proportionnelles aux dangers qui représentent. Donc la violence médiatique et politique qui s'abat sur les zadistes, moi j'utilise le terme de façon extrêmement élogieuse évidemment, montre l'inquiétude qu'ils peuvent susciter malgré leur petit nombre et leur puissance politique relativement modeste, l'inquiétude qu'ils peuvent susciter chez les classes dirigeantes. Et donc c'est presque un indicateur de la pertinence de cette forme de lutte qui inquiète finalement beaucoup plus que maintenant les mobilisations syndicales ou tout un tas de mouvements sociaux.
Vous dites à quel point la lutte sur le territoire, justement, a une force particulière.
Exactement, c'est ça l'hypothèse que je développe. C'est de la notion de territoire, là aussi, que c'est comme nature, il faudrait trouver d'autres termes parce que le mot a été beaucoup galvaudé, mais pour l'instant, on n'a que lui. Mais pourquoi on est dans une période historique où la clé de l'action politique efficace se trouve du côté de l'attachement au territoire ?
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Alessandro Pignocchi, votre ouvrage s'appelle Perspectives terrestres. Ça sort aux éditions du Seuil. Un livre qui tombe à point nommé alors que l'écologie fait l'objet ces derniers temps d'un énorme backlash, c'est-à-dire un retour de bâton. Rien que cette semaine, voilà ce qui s'est passé.
des klaxons de tracteurs pour accueillir le vote de l'Assemblée et des sourires sur les visages des agriculteurs. La motion de rejet est adoptée. La loi d'orientation agricole ne sera pas votée dans l'hémicycle. Manœuvre politique réussie par le Bloc central qui contourne ainsi les milliers d'amendements déposés par écologistes et insoumis pour bloquer le texte.
Les travaux sur l'A69 entre Castres et Toulouse vont reprendre. En appel, la Cour administrative est revenue sur la décision du 27 février qui suspendait le chantier.
Les ZFE sont supprimés.
Pour 98 contre 51...
Une mesure clé du premier quinquennat Macron pour limiter la pollution automobile vole en éclats. Le texte doit encore être voté par le Sénat et validé par le Conseil constitutionnel. Deux étapes qui pourraient réserver des rebondissements.
ZFE, A69, loi du plomb. Qu'est-ce que ça raconte là aussi, toute cette séquence?
C'est une séquence qu'il faut réinscrire dans le temps long. Et c'est ce que, en fait, la leçon à en tirer est très générale. En gros, la social-démocratie, c'est fini. C'est ce que j'essaye de dire. Enfin, je ne suis pas le seul. Et pour penser nos luttes, pour penser l'écologie, pour penser la façon de s'y prendre politiquement aujourd'hui, il faut vraiment prendre acte de façon extrêmement claire de ce point-là. C'est que ce modèle politique qui a vu le jour à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et dont la proposition générale était en gros de développer les forces productives via le développement du capitalisme, tout en l'aménageant, tout en utilisant la force d'État pour atténuer les dégâts sociaux puis écologiques du développement des forces productives. Et compromis qui, bon an mal an, a marché un temps parce que les classes dominées avaient les moyens d'arracher un certain nombre de concessions, avaient des outils de lutte efficaces et que par ailleurs, il y avait une dimension sans doute psychologique dans les classes dominantes qui avaient intégré l'idée qu'une augmentation du niveau de vie matériel global était un outil de gouvernance, moyennant le maintien d'inégalités qu'elles jugeaient acceptables, mais qu'en tout cas, qu'en gros, donner des miettes aux classes dominées, ça contribuait à les faire tenir tranquilles. Et ce modèle-là, vraiment, n'existe plus. C'est-à-dire que les partis politiques qui s'en revendiquent aujourd'hui sont des partis zombies. Ils désignent un projet qui, dans le domaine des possibles, n'existe plus, parce que nos outils de lutte se sont considérablement affaiblis, qu'en face, les outils de contrôle, notamment via la libéralisation des flux internationaux de la finance, en face, ils se sont durcis, et surtout, la psychologie, les motivations fondamentales des classes ultra-dominantes se sont transformées. L'idée d'une augmentation générale du niveau de vie matériel est balayée par la crise écologique, est balayée par la crise actuelle du capitalisme. Et maintenant, le moteur, l'aiguillon politique qui oriente les décisions politiques des ultra-dominants, c'est de se mettre à l'abri.
Il y a quand même une crise du capitalisme.
Il y a une crise du capitalisme.
C'est ce qu'il faut quand même comprendre. Exactement. Qui explique aussi d'ailleurs cette radicalité, aussi cette crispation de plus en plus forte.
Et sa transformation.
Qui tourne autour de l'écologie, par exemple.
Malheureusement, on connaît l'histoire. C'est que quand le capitalisme entre en crise et que ses dispositifs internes, notamment l'économie de la consommation et ses dispositifs répressifs ne suffisent plus à faire tenir tranquilles les mécontents, il se fascise, c'est-à-dire qu'il va chercher d'autres affects, la haine de l'autre et la joie malsaine qu'on ressent à voir ce qui a été constitué artificiellement comme une minorité menaçante se faire martyriser, donc une minorité menaçante qui ont été les juifs à une époque, qui aujourd'hui sont les musulmans et dans une mesure moindre pour l'instant, les écologistes, les féministes, les trans et quelques autres. Et donc le capitaliste en crise va chercher cet affect très puissant malheureusement pour se maintenir. Et donc là, la boussole politique des ultra-dominants, c'est de solidifier coûte que coûte toutes les structures qui assurent leur domination, qui permettent de tenir la population tranquille.
D'où ce vocabulaire qu'on entend sans arrêt autour de l'écologie, de contraintes, de normes, d'entraves, de freins à l'activité économique. C'est contre ça que se bat justement cette classe dominante dont vous parlez.
Souterrainement, c'est ça. C'est qu'ils ont besoin, le capitalisme pour se maintenir a besoin de l'augmentation des flux. Il faut construire des A69, il faut que les flux continuent à augmenter.
Il faut nourrir la bête, quoi.
Il faut nourrir la bête. Et leur domination repose là-dessus. C'est-à-dire que si la bête, comme vous dites, s'effondre, ils se retrouvent à égalité avec tout le monde. Donc ça, c'est leur crainte. Ils ont bien conscience que leur statut de dominant, et malgré leur puissance militaire et malgré leur puissance répressive, est menacé, qui sont beaucoup moins nombreux. Et donc, ils ont vraiment une volonté farouche à entretenir les structures qui assurent leur domination. Et c'est un choix qui est évidemment immoral, qui est suicidaire à moyen terme, mais à court terme, on voit bien la rationalité de la chose. C'est-à-dire, il s'agit pour eux d'échapper aux effets de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres. Et de fait, c'est ce qui se produit.
Vous citez Bruno Latour qui filait la métaphore du titre Titanic, justement, ça raconte ça aussi, cette histoire, finalement.
C'est ça, c'est faire en sorte que les classes, les strates, les étages inférieurs du navire se rebellent le plus tard possible, se rendent compte de la catastrophe le plus tard possible, et que les dominants aient le temps de se barrer avec les radeaux de sauvetage. Et oui, c'est ce qui est en train de se produire. Et du coup, il faut vraiment prendre acte de la fin du modèle social-démocrate, parce que sinon, on emploie des outils qui sont obsolètes. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les utiliser, mais ça veut dire que eux seuls, la manifestation, le plaidoyer, les courroies classiques de la démocratie représentative ne peuvent plus suffire, étant donné le durcissement du rapport de force.
Alors, du coup, vous proposez quoi ? La révolution
Du coup, voilà. C'est-à-dire que c'est que quand on a pris acte de ça...
C'est quoi l'alternative, alors ?
Quand on a pris acte de ça, il ne reste pas beaucoup d'alternatives.
Ben non, mais c'est quoi ? C'est la violence ?
Donc, alors, pas du tout, ou pas tout à fait, mais j'y viens. En tout cas, si on puise dans notre imaginaire collectif, les alternatives ne sont pas très nombreuses. Il y a effectivement le renversement révolutionnaire global ou la prise de pouvoir par les urnes pour essayer d'infléchir les choses. Et donc, je discute chacune de ces deux hypothèses tout en disant qu'il faut continuer à les penser de façon extrêmement précise. Notamment, le renversement révolutionnaire, c'est une arme pour faire peur. Enfin, pendant un temps, le compromis social-démocrate a tenu justement parce que les dominants avaient peur d'un embrasement révolutionnaire. Donc, il faut continuer à le penser, continuer à essayer d'en alimenter la possibilité. Mais on ne peut pas faire reposer tout notre avenir politique sur ces deux hypothèses-là, ça serait vraiment joueur.
Et les urnes, ça existe toujours, heureusement.
Ça existe toujours, sauf qu'un gouvernement authentiquement progressiste, c'est-à-dire qui déciderait d'aller au clash contre les ultra-dominants, contre le monde de la finance, ne tiendrait pas en place aujourd'hui. Il serait balayé, ne serait-ce que sur le niveau financier, étant donné la puissance médiatique aussi des oligarques, il ne tiendrait pas en place, à moins que, et c'est là que j'en viens à mon hypothèse, à moins qu'il ait des mouvements sociaux suffisamment organisés, suffisamment puissants, pour à la fois l'aider à se maintenir en place et le surveiller, quoi. Et là, ces mouvements sociaux d'une puissance adéquate, j'essaye de montrer qu'ils ont besoin d'être territorialisés, qu'ils ont besoin d'avoir des forces, même relativement modestes, d'autonomie matérielle, et en tout cas des capacités, des savoir-faire dans le domaine de l'organisation collective, qui pour l'instant nous font largement défaut. Et donc il s'agit, pour pouvoir penser de façon un peu plus optimiste, tant le renversement révolutionnaire que la prise de pouvoir par les urnes, il faut qu'en amont, on ait reconstruit ces réseaux, et étendu largement les réseaux de solidarité, les réseaux d'organisations territoriaux. Et cette constatation-là me mène donc à l'hypothèse centrale du livre, qui est que les réseaux d'autonomie territoriale ne sont pas que des outils pour préparer un éventuel renversement révolutionnaire, mais sont une fin en soi, et qu'une situation de cohabitation relativement pacifiée entre des structures étatiques du type de celles qu'on connaît et des fédérations de territoires qui développent certaines formes d'autonomie vis-à-vis d'elles, et une situation désirable en soi qui nous permettrait de reconstituer des forces politiques suffisantes pour remettre la main sur certaines institutions d'État, la sécurité sociale par exemple, en développer d'autres, par exemple une sécurité sociale de l'alimentation, et que étayer un petit peu cette hypothèse, j'ai recours à l'anthropologie, à l'archéologie, pour dire que cette situation de cohabitation entre des structures de type étatique, c'est-à-dire avec un pouvoir politique confisqué par une minorité, et des territoires autonomes qui s'organisent dans ces marges, ça a été la règle dans l'histoire de l'humanité. C'est que depuis quelques siècles que les États ont atteint une forme d'hégémonie territoriale, et encore imparfaite, elle n'est pas totale, mais depuis que des choses qui ressemblent à nos États modernes existent, ces structures ont toujours dû cohabiter avec d'autres territoires, généralement beaucoup plus étendus qu'elles, tant en nombre de population qu'en en emprise territoriale. Et cette cohabitation, dans bien des cas, ceux étudiés par l'anthropologue James A. Scott, par exemple, apportait une forme d'équilibre. C'est-à-dire que les populations qui vivaient sous la coupe de l'État avaient au minimum un plan B. C'est-à-dire que quand l'État devenait trop pénible, il y avait la possibilité de faire autre chose. Quoi. Quand la conscription, par exemple, devenait un peu trop brutale, on pouvait s'en éloigner et on avait d'autres options. Il y avait l'incarnation de la fameuse autre alternative.
Et donc ça, ce sont ces perspectives terrestres dont vous parlez, qui sont aussi très concrètes, hein, parce que vous le dites, d'ailleurs vous terminez le livre comme ça, c'est alimenté aussi par les petits gestes du quotidien, hein, c'est un terme évidemment qui peut faire fuir certains.
Non, mais c'est de façon ironique.
C'est ce mêlé concrètement aux luttes territoriales, par exemple. Il y a plein d'idées dont vous parlez. et ce qui fait justement force face au rouleau compresseur là, qui nous arrive dessus. C'est ça,
de toute façon, quoi qu'il nous arrive dessus, que ce soit le fascisme mondialisé, une crise écologique aiguë, plus probablement un mélange des deux, c'est ce qui est en train de se dessiner, ou éventuellement la prise de pouvoir surprise d'un gouvernement qui ne nous est pas trop antipathique, quelle que soit l'hypothèse à laquelle on croit, reconstruire des formes de solidarité territorialisée, ça ne peut pas être une mauvaise idée. Dans tous les cas, ça sera utile, quoi qu'ils nous attendent. Et l'objet de mon livre, c'est de fournir un outil intellectuel supplémentaire pour faciliter cette mise en réseau et cette fédération, pour faire tenir ensemble des mouvements politiques qui, pour l'instant, ont tendance à s'ignorer, et les tisser, notamment au monde paysan, parce que c'est là la clé, hein, c'est l'agriculture industrielle, c'est pour ça que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est pour ça que les classes ultra-dominantes font tout pour défendre ce modèle-là. Leur domination repose en dernière instance sur la dépossession, c'est la pierre angulaire, la première pierre qui permet de construire l'édifice capitaliste, c'est la dépossession des populations de leurs moyens d'autosubsistance, notamment alimentaire. Donc le monde rêvé des dominants, c'est un monde où un nombre minimal d'agriculteurs s'occupe de la nourriture de tous les autres. Donc reconstruire des réseaux au minimum alimentaires indépendants du marché, c'est la condition minimale, à la fois pour reconstruire un peu de force politique et pour commencer à éprouver, et là on boucle avec ce qu'on disait au début, ces fameux affects-là dont on imagine, dont on espère, qu'ils recèlent des formes de joie, d'intensité d'existence
quand même,
qui seront...
Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand même, en filigrane, c'est fondamental, parce qu'une écologie triste, morose et déprimante,
c'est
ça n'engage pas vraiment les foules.
Le problème de ces joies-là, c'est qu'on ne peut pas les anticiper quand on ne les a pas vécues. C'est qu'il faut des endroits, il faut des territoires pour éprouver ce que ça fait. Ce choc que j'ai eu sur la ZAD, de voir d'un coup, c'est comme essayer d'imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue. Tant qu'on n'a pas eu les institutions qui permettent d'éprouver ces affects-là, on ne peut pas savoir les formes de plénitude émotionnelle que ça peut procurer. Quoi.
C'est votre scénario pour une émancipation écologiste. Alessandro Pignocchi, ça paraît aux éditions du Seuil, avec également quelques dessins, puisqu'on rappelle, vous êtes quand même auteur de bande dessinée. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de La Terre au Carré, et merci à Anna Ayestaraï qui a préparé jeudi ce dossier. On termine avec vos messages et le répondeur.
Bonjour Louise, Montauban de Bretagne. Je voulais réagir à l'émission sur le sucre. Je crois que votre émission passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas l'aliment qui pose un problème, c'est le contrôle qu'on exerce sur lui. L'exemple de l'Australie le prouve. Moins de sucre, mais beaucoup plus d'obésité. Ce n'est pas une question de nutrition isolée, c'est de la diète culture. Ce rapport anxieux et culpabilisant à la nourriture qui crée les vrais dégâts. Pour une santé durable, il faut sortir de cette logique de contrôle. En ce qui concerne les souris, effectivement, je crois que l'homme ne réagit pas exactement comme la souris, puisque j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi qui préfèrent consommer de la cocaïne plutôt que du sucre pour rester mince. Bonne journée, au revoir.
Bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe. C'est Louis de l'association L214 dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vous appelle parce que, de façon exceptionnelle, un rassemblement contre les combats de coqs à Saint-Martin-les-Tatinghems ce samedi 31 mai attirera plus de 60 personnes avec des politiques, avec une belle couverture presse pour une fois. Et ça fait plaisir de se sentir soutenu dans cette cause et ça fait plaisir pour les coqs aussi. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, leur apporter un peu de force, nous apporter un peu de force, vous êtes les très bienvenus.
Bonjour Martine, dans la Drôme, c'est si bon de massacrer du vivant, vache, poulet ou cochon, pour se sentir puissant. Apprenons à manger autrement, changeons nos traditions, soyez intelligents.
Bonjour, c'est Philippe aux Herbiers en Vendée. Le 30 mars de l'an passé, j'ai garé ma voiture pour un arrêt pipi pressant près d'un champ. Et la couleur orange des herbes crevées témoignait du traitement au glyphosate. Et tous les 10 mètres en moyenne, il y avait des repousses de jeunes tiges flambant vertes qui signaient une culture précédente de colza OGM qui repoussait puisqu'elle est résistante à ce même glyphosate. Alors, une fois mon arrosage terminé, je me suis approché d'une des tiges pour vérifier si c'était bien du colza. Et là, j'ai eu 3 ou 4 coups de fusil successifs qui m'ont invité à remonter bien vite dans ma voiture. Là, j'ai vu un homme armé au bout de sa plateforme de stabulation à 200 mètres tourner dans ma direction. C'est tout. Vous savez maintenant ce que revendique la loi du plomb.
Et merci pour vos messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45. Appelez-nous pendant le week-end, on diffusera vos messages lundi. Merci à Valérie Ayestaraï, Anna Massardier et Ronan Mahé. Aujourd'hui, à la technique.